La quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.
Avant d'ouvrir la quatrième de couverture du mois de novembre, j'espère que vous avez suivi les bons conseils de Clara Luciani et que votre mois d'octobre a été tourbillonnant. D'autant plus que dans la longue liste des retours, on aurait pu ajouter le retour, surprise, de Stromae, disparu des écrans radars depuis 8 ans. La star belge lève son verre aux oubliés, aux travailleurs de l'ombre, dans son nouveau clip qui annonce son retour. Alors nous aussi, on fête la 24e édition de la 4e de couverture, et avec Stromae, on dit santé. Après les retours multiples et variés d'octobre, on va cette fois larguer les amarres et prendre le large, sauter à pieds joints dans les aventures qui s'offrent à nous, et faire de ce mois de novembre un kaléidoscope d'émotions et de découvertes. On passe à l'heure d'hiver, on va encore perdre quelques minutes de soleil, peu importe, on aura de quoi se changer les idées, voire de passer de très très bons moments en novembre. Alors, qu'y a-t-il au programme ce mois-ci? On reviendra avec plaisir sur quelques dates qui nous ont réjouis en octobre. On prendra le large sur les pas d'un explorateur dont Ritser Trisma a fait le héros du film qu'il vient de présenter au Festival des Antipodes à Saint-Tropez. On écoutera Agnès de Sarthe nous lire quelques pages de son dernier roman, L'éternel fiancé, parce que novembre sera peut-être pour elle l'aboutissement de sa grande aventure vers le prix Goncourt. Enfin, on retiendra quelques dates pour ce mois de novembre où tant de rendez-vous nous invitent à changer de focale, à passer au-delà des frontières, à rêver en quelque sorte. Alors, en route pour cette 4e de couverture de novembre, on largue les amarres, on embarque. Bienvenue à bord avec Radio Albatros. En octobre, on a couru un peu partout. On a bien senti que la vie culturelle reprenait, très bien senti même. On a suivi d'abord le festival Terre de Parole qui a promené ses tréteaux d'un bout à l'autre du département pendant 3 semaines. Une programmation éclectique qui a fait la part belle aux rencontres avec des auteurs et des artistes en Seine-Maritime. Des lectures, des spectacles, des concerts et un invité de choix, Gustave Flaubert. Osé Flaubert affichait le festival, le ton était donné, il ne s'agissait pas d'élever un mausolée à l'écrivain, mais de dépoussiérer son œuvre pour mieux en percevoir la force qui résiste au temps. On a eu une réduction de Madame Bovary en 288 au théâtre Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray, un Flaubert illuminé sur une musique de Beethoven par Karine Piazzi au théâtre Le Passage à Fécamp, l'enterrement de Flaubert par Émile Zola, lu par Alexis Pelletier à Étretat, la Bretagne de Flaubert à Yvetot avec la lecture d'un automne de Flaubert d'Alexandre Postel, mais le plus décapant de tous les rendez-vous, a été celui de la compagnie du Chafouin, Flaubert, Super Héros. Anne Buffet a imaginé un spectacle endiablé et irrésistible où les textes expurgés de Flaubert retrouvaient leur verdeur initiale. Grâce à Super Héros, le défenseur de la vérité littéraire qui réinsérait tous les passages croustillants coupés par la censure familiale. « Je ne suis qu'un lézard littéraire qui se chauffe toute la journée au grand soleil du beau, voilà tout », écrivait Flaubert à Louise Collet en 1848. On a bien vu, grâce à ce super-héros, qu'il n'y avait pas que ça, et ses lettres à Maxime Ducamp, 3 ans plus tard, pendant son voyage en Orient, dévoilaient un écrivain nettement moins contemplatif. Osé Flaubert, on peut le dire, c'était osé et même olé olé, mais tellement réjouissant. En octobre, à Blois, il a été question de la Normandie et d'un film qui sera bientôt sur les écrans en janvier 2022. En effet, c'est à Blois que se déroulent chaque année les rendez-vous de l'histoire et cette année, les rencontres avaient pour thème le travail. Et c'est Florence Aubenas, la grande reporter au journal Le Monde, qui présidait cette 24e édition. un sujet qu'elle a souvent exploré dans ses enquêtes, et plus particulièrement dans Le Quai de Ouistreham, le récit autobiographique qu'elle avait publié en 2010. Et c'est justement ce récit qui vient d'être adapté par Emmanuel Carrère au cinéma, avec Juliette Binoche dans le rôle principal. Une plongée saisissante dans le monde des travailleurs précaires, des femmes de ménage soumises à des cadences infernales pour remettre en état le temps d'une escale les cabines des ferries qui relient Ouistreham à l'Angleterre. Une façon, là aussi, de rendre hommage aux travailleurs de l'ombre, comme l'a fait Stromae dans son clip « Santé pour ceux qui trinquent », pour célébrer ceux qu'on ne célèbre jamais.
À ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes aux vestiaires. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas? Pour une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Quoi les bonnes manières? Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens, que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable et fais vite, elle pourrait se finir comme ça, ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Brosser, brosser, si tu ne me respectes pas. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas.
Un autre festival a braqué ses projecteurs sur ceux qui travaillent dans les coulisses du cinéma cette fois. Les coiffeurs, les maquilleurs, ceux qui fabriquent et conçoivent les costumes. C'est le festival des villes sœurs entre Mers-les-Bains, Le Tréport, Criel-sur-Mer et eux qui se proposent chaque année de rencontrer autour des films des professionnels du cinéma. Et David Scherrer, maquilleur d'effets spéciaux, était là pour évoquer son travail sur le plateau du film de Xavier Beauvois qui sortira le 3 novembre. Un film tourné à Étretat et un titre qui nous va droit au cœur évidemment, c'est Albatros. Vous pourrez d'ailleurs retrouver David Scherrer dans la 4e L'Hebdo, qui sera diffusée la semaine du 8 novembre, ou évidemment dans les podcasts sur le site de Radio Albatros. Et on pensera aussi au poème de Baudelaire, l'Albatros, et à ces vastes oiseaux de mer qui suivent, indolents compagnons de voyage, le navire glissant sur les gouffres amers. De la poésie encore en octobre, en chanson cette fois, après Baudelaire, octobre a résonné des voix des poètes disparus. Un été indien en musique pour célébrer les voix qui se sont tues. Celle de Georges Brassens qui aurait eu 100 ans. Celle d'Yves Montand qui aurait eu 100 ans lui aussi. Alors, en octobre, avec Prévert et Cosma, on a fêté l'automne et les feuilles mortes.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
En octobre, l'architecture aussi a été à l'honneur. Après le cinéma, la littérature, le théâtre et la musique, un festival lui a été consacré en Normandie, c'est le Festival Zigzag, qui a exploré les bords de la Seine pour la troisième édition de son Festival d'architecture et des arts de l'espace. Une invitation à découvrir un territoire au fil de l'eau pour mieux penser l'habitat de demain. Des déambulations, des randonnées, des visites, des expositions, de Vernon à Deauville, en passant par Port-Jérôme, Bolbec, Le Havre, il y en avait pour tous les goûts. Une large réflexion sur ce qui nous unit à notre territoire et une belle aventure dans la vallée de la Seine. Enfin, une autre aventure s'est apprêtée à refermer ses portes en octobre, c'est l'invitation, lancée en juin par le Muséum du Havre, à plonger dans la culture australienne. Le point de départ de cette escale australienne, c'était le voyage de découverte aux terres australes, initié par Bonaparte et parti du Havre en 1800. Alors pour fêter la fin de cette grande traversée de l'été, on a rencontré le réalisateur d'un film documentaire consacré à l'un de ses explorateurs qui ont mis le cap sur l'Australie. C'est Ritsert Rinsma, enseignant-chercheur à l'université de Caen, qui, après avoir publié une biographie du naturaliste Charles-Alexandre Le Sueur, s'est embarqué dans le sillage de Nicolas Baudin et on lui a tendu notre micro. Donc Ritsert, vous revenez du Festival des Antipodes à Saint-Tropez, un festival des films australiens et néo-zélandais où vous avez présenté Les Immortels de Tasmanie sur les pas d'un naturaliste célèbre. Vous pouvez nous expliquer le sujet de votre film ?
Oui, absolument. C'est un documentaire qui retrace en fait deux histoires. D'abord, le voyage du commandant Nicolas Baudin qui est parti du Havre en 1800 et qui n'est jamais revenu. Et puis, un botaniste célèbre du nom de Francis Allais, que nous connaissons bien, des missions type Ushuaïa, et qui a accepté, avec notre équipe, de partir en Tasmanie sur les traces de Nicolas Baudin pour y découvrir les plantes, les animaux, et nous faire vivre, en fait, avec un décalage de 220 ans, l'expédition Nicolas Baudin.
Et votre film, parce que c'est pour ça que vous êtes là aussi, ce film qui va être présenté d'ailleurs hein, au Havre.
Tout à fait, le 3 novembre à 20h30.
Avant d'en dire plus sur le film, on peut quand même tout de suite noter que ce film va être visible au Havre.
Oui, tout à fait, parce que l'avant-première donc, a eu lieu à Saint-Tropez ce week-end, hein, pendant le festival. Nous étions sélection officielle et les Havrais vont avoir la chance de le voir le 3 novembre, donc à partir de 20h30. D'ailleurs, ce sera au studio, hein, juste à côté de la gare, hein, donc le cinéma, le studio. Et je recommande à ceux qui veulent assister de faire vite pour réserver leur place. Ce sont des places gratuites, mais je vous recommande de réserver sur Internet en tapant simplement « Immortel de Tasmanie, studio Le Havre ».
Voilà, bon, on a bien noté et on le fera. Donc ce voyage, vous en avez fait un film de qui dure un certain temps, j'imagine.
Oui, c'est un long documentaire d'une heure et demie. D'ailleurs, quand on a annoncé au festival que le documentaire allait durer une heure et demie, les gens étaient un peu surpris parce que ce n'est pas un format habituel pour les documentaires. Souvent, c'est 45-50 minutes. Et c'était d'ailleurs assez cocasse parce que dans la salle se trouvaient des producteurs, productrices, acteurs, actrices australiens, néo-zélandais. Et dont une productrice en particulier qui s'est approchée de moi, qui m'a dit « Mais, ah, oh, monsieur Rinsma, une heure et demie, c'est beaucoup trop long pour un documentaire. » Alors j'ai dit « Madame, il n'y a pas de souci. Hein, vous regardez la fin du film avec moi et à la fin, vous me dites comment je vais la raccourcir. » Et après, elle est venue me voir, effectivement. Elle m'a dit « Monsieur, le film, il est parfait tel qu'il est, ne changez rien. Hein, je ne me suis pas ennuyé. » Une seule seconde.
Donc c'est un travail sur des archives, hein, j'imagine.
C'est un travail sur beaucoup de choses. C'est avant tout un travail sur le paradis terrestre qu'est la Tasmanie, bien sûr. Une île préservée, loin de la civilisation, avec un tiers de l'île qui fait partie donc des réserves naturelles de l'UNESCO. Et donc le gros du film, c'est vraiment ça, découvrir ce paradis, ces animaux, ces plantes, grâce à cet explorateur incroyable et ce grand savant et scientifique Francis Allais. Montrer les images, parce qu'en fait, voilà, même 220 ans plus tard, l'île n'a pas changé. Hein, nous découvrons l'île telle que Nicolas Baudin l'a vue il y a plus de deux siècles. Donc l'histoire raconte l'histoire de la Tasmanie, mais aussi de l'expédition Nicolas Baudin. Et grâce à ce spécialiste, nous vivons l'expédition en fait comme si nous y étions.
Et votre film a, j'imagine, un lien intime avec tout ce qui s'est passé au Havre autour de l'Australie cet été.
Oui, entièrement. Hein, c'est bien dans ce cadre que ce film sera projeté. Et c'est aussi Les Immortels de Tasmanie qui vont clore la saison Le Havre-Australie.
Ben, c'est merveilleux, merci. Mais alors, on a bien noté, on va retenir nos places et on viendra voir avec plaisir votre travail et revenir peut-être pour une prochaine rencontre avec vous. Merci beaucoup, Retzer.
Merci à vous, ça sera avec plaisir.
Il n'y a pas que les explorateurs qui traversent les frontières. On peut traverser d'autres frontières, celles du temps, par exemple, par la magie de l'écriture. Et cet automne, le dernier roman d'Agnès de Sarthe a été très remarqué. D'abord parce qu'il a emballé les lecteurs et les critiques, au point d'être dans la dernière liste du prix Goncourt. On croise les doigts, bien sûr, pour son éventuel succès. Un roman qui embarque le lecteur dans le voyage d'une vie, 50 ans, 60 ans, beaucoup d'années, des péripéties, des bonheurs, des drames, où la narratrice va croiser sans cesse le petit garçon qu'elle rencontre dès la première page du roman. Et c'est Agnès de Sarthe elle-même qui nous a lu ce passage lors d'une séance de signature au Havre.
En rang par deux, les enfants de l'école maternelle se tiennent par la main. Ils vont à la mairie assister au concert de Noël. Noël, tout le monde sait ce que c'est. Mais un concert. Les voilà assis dans la salle des mariages. Au plafond, un énorme lustre à pendant de cristal menace de les écraser si jamais ils tombent, songe une petite fille assise juste au-dessous. Elle a 4 ans. Chez elle, il y a toujours de la musique. Elle est contente d'en entendre. Elle se récite les noms des compositeurs que sa maman et son papa aiment. Il y a Beethoven, mais maman préfère Brahms. Il y a Schubert que papa adore, mais Élise, la grande sœur, veut toujours du Chopin. Les mains sous les cuisses, la fillette regarde les musiciens de l'orchestre se mettre en place. Le chef lève sa baguette. Les maîtresses des différentes écoles du quartier qui accompagnent leur classe font « Chut, 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 chut ». Les enfants se taisent. Ils pensent que le Père Noël va peut-être venir. On leur a promis que s'ils étaient sages, c'est ce qui arriverait. La petite fille se fiche du Père Noël. Ce qu'elle veut, c'est la musique. Le chef abaisse la main droite, tout en montant la gauche. Et une mélodie tissée de plusieurs dizaines de voix mêlées s'élève. La petite fille en a le souffle coupé. Le son est si fort, tout vibre, de ses orteils comprimés dans les chaussures vernies sorties pour l'occasion à ses cils immenses qui lui font un regard triste et doux. Et puis soudain, comme cédant à un ordre impérieux, le garçon devant elle se retourne pour la regarder. Elle ne l'a jamais vu. Ce n'est pas un élève de la Cité d'Or, ainsi s'appelle son école. Qui est cet intrus? De quelle école vient-il? Les cheveux mal coiffés, il la fixe. Une masse mousseuse et déséquilibrée, tout vers la gauche ou tout vers la droite, lui donne un air de travers. Il lui dit qu'il l'aime. Il l'a choisie, elle, entre toutes les filles de la salle, parce que, explique-t-il, tu as les yeux ronds. Comment ose-t-il parler alors que la musique a commencé? La petite fille pense que si elle lui répond, ils seront foudroyés. Par les maîtresses, par le chef d'orchestre, par Dieu lui-même. Elle se tait. Mais voilà qu'il insiste. « Je t'aime parce que tu as les yeux ronds. » Ne sachant comment le faire taire, elle rétorque « Je ne t'aime pas parce que tu as les cheveux de travers. » Le garçon se met à pleurer en silence. La petite fille est sauvée. Mais elle songe qu'ils sont à présent fiancés à cause de la beauté de la musique. Officiellement fiancés à cause de la salle des mariages. Des dizaines d'années plus tard, elle considère que ce garçon qu'elle rencontre par hasard à intervalles réguliers et qui se rappelle à peine son prénom d'une fois sur l'autre, lui appartient pour toujours. Comme en musique, elle reprend au début et à partir de là, le lien se noue. Il lui dit qu'il l'aime, qu'il l'a choisi parce qu'elle a les yeux ronds et elle lui répond « Moi aussi je t'aime parce que tu as les cheveux de travers. » Et tout recommence.
Merci Agnès de Sarthe pour la lecture de votre éternel fiancé et merci d'avoir si souvent associé ce quatuor à cordes en mi bémol majeur de Fanny Mendelssohn à votre roman baigné de musique. Novembre commencera donc par la proclamation des prix littéraires, le Goncourt, le Renaudot, qui succédera à Hervé Le Tellier pour le Goncourt, à Marie-Hélène Lafont pour le Renaudot? Patience, les flashs crépiteront bientôt et les auteurs s'afficheront à la une des journaux, comme au cinéma. Et en novembre, le 25, le théâtre Le Rive Gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray présentera une pièce très originale sur une histoire du Festival de Cannes. Cannes, c'est le titre. Un pari un peu fou d'Étienne Godillère, qui se propose de revisiter les 5 premières décennies de l'institution cannoise. Une grande fresque où le public est invité à venir au théâtre ce soir-là, vêtu de strass et de paillettes. Deauville nous invite à un autre voyage. C'est son festival de photographie qui nous attend aux Franciscaines, à la plage, sur les planches et partout en ville. Jusqu'au 2 janvier, retrouvez la passion de ceux qui suspendent le temps et capture les moments sensibles pour une invitation au voyage photographique pour ce nouveau festival Planche Contact. Caen, à son tour, proposera, du 18 au 28 novembre, un voyage au long cours autour de la littérature nordique pour sa 29e édition. Cette année, vous mettrez le cap sur le Danemark, le Groenland et les îles Féroé. Encore une invitation à s'évader, à passer au-delà des frontières, comme le suggère l'affiche des Boréales, superbe comme chaque année. Et des affiches, justement, parlons-en. Car si on est toujours bien au courant des dates des spectacles, des titres des films à voir ou des concerts à ne pas rater, c'est que des artistes déploient leur créativité et leur savoir-faire pour offrir à nos regards curieux des affiches, des programmes papier ou des sites internet alléchants. Cette communication visuelle sera mise à l'honneur jusqu'en décembre pendant la 13e saison graphique au Havre et au-delà, à Caen, Rouen, Duclair, Cherbourg. Les affiches ont inspiré des artistes dès leur début dans les années 1920. C'était Toulouse-Lautrec ou Mucha qui sont régulièrement exposés dans les musées. La saison graphique mettra cette année en valeur des créateurs contemporains comme la jeune Margot Criseo qui s'empare du Bouvard et Pécuchet de Flaubert et en propose une lecture graphique, c'est-à-dire des textes et des images, au Havre, à l'Artothèque de l'Essadar. Désapprendre, c'est le titre. Plus anciennes, les affiches de la Transat seront accessibles en ligne pour nous rappeler à quel point ces représentations d'un Orient mythique offraient du rêve aux futurs passagers fascinés par l'exotisme méditerranéen. Le Sahara, les ruines de Carthage, ces nouveaux touristes emportaient-ils dans leur bagage un exemplaire froissé du Salammbô de Flaubert pour le suivre pas à pas dans ses découvertes enivrées des splendeurs de l'Orient, pour relire sur place le roman qui commence ainsi? C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Almilcar. Et si vous avez raté à Rouen l'expo sur Flaubert, Salammbô, Passion, Fureur, Éléphant, vous pourrez la retrouver tout l'hiver au Mucem, à Marseille, presque en face de Carthage en fait. Les bateaux, enfin, seront à l'honneur en novembre pour des voyages au long cours, au-delà des frontières. La Transat Jacques Vabre s'élancera le 7 novembre. Le Havre, la Martinique. Une traversée transatlantique à la voile à suivre au jour le jour jusqu'à son arrivée dans la baie des Flamands après quelques semaines de navigation vers Fort-de-France. On voulait une quatrième de couverture de novembre qui fasse prendre le large, larguer les amarres. On aura donc l'embarras du choix. La Martinique, l'Orient, les Boréales, l'Australie, ou plus près de nous, Ouistreham ou l'Étretat d'Albatros. L'essentiel, c'est de changer de point de vue, d'aller voir ailleurs, parce que la vie est plus belle vue d'en face. On ira voir en face. Merci beaucoup Joanne aux manettes aujourd'hui encore. Bon vent à tous et rendez-vous le 29 novembre pour la 25e édition.
C'était la quatrième de couverture, une émission proposée et animée par Christine Barou.